Radio Kapi.
Le journal Jean-Désiré Kanyama.
La ville de Goma connaît depuis ce matin des manifestations populaires contre la MONUSCO, conséquence des barricades constatées dans plusieurs artères et paralysées activités socio-économiques toute la matinée. Nous aurons en direct de Goma Bernard Nyangui en début de ce journal. À la une également, Kinshasa, depuis les petites heures du matin, un incendie a ravagé le bâtiment abritant le siège de la Société commerciale des transports et des ports ex-Onatra. La délégation syndicale évoque la responsabilité de l'actionnaire principal, qui est l'État congolais. L'invité de ce journal est le nouveau chef de site du parc de Kahuzi-Biega au sud Kivu. Deo Kudira-Kwindja parle du changement de mode de gouvernance depuis avril 2022, impliquant le cadre d'un partenariat public-privé. Mesdames, Messieurs, bonjour, au Nord Kivu, les activités socio-économiques sont restées paralysées toute la matinée ce lundi dans la ville de Goma. C'est à la suite des manifestations populaires contre la MONUSCO, alors que plusieurs artères de la voirie urbaine ont été barricadées par de jeunes manifestants. Plusieurs bases et sites de la MONUSCO ont été pris pour cible. Nous joignons Bernardin Nyangui à Goma pour nous en parler. Bernardin, bonjour, comment évolue la situation en ce moment ?
Oui, bonjour Jean-Désiré. Depuis 11h locales, des tirs sont entendus dans certains coins de la ville. C'est à l'instar de l'axe Katindo et même vers Majengo, où la police qui se déploie tente de dégager les routes barricadées depuis le matin. Et il faut préciser que c'est depuis 8h, depuis 7h locales déjà, que des jeunes manifestants ont placé des pierres et des bois pour barricader plusieurs artères de la voirie urbaine. C'est comme les axes Katindo, Majengo, Unigom, et même à certains endroits au centre-ville. Et d'autres jeunes ont même été vus avec des calicots portant des messages hostiles à la MONUSCO.
Oui, Bernardin, y a-t-il un certain bilan de ces manifestations ?
On ne peut pas avoir un bilan exhaustif pour l'instant, mais il faut relever le fait que plusieurs sites de la MONUSCO ont été pris pour cible et caillassés par les manifestants. Ces derniers ont même réussi à pénétrer dans certains des sites comme le régional, comme la RVA, l'entrepôt de Hachi, où plusieurs effets de bureaux et autres biens de la mission ont été pillés. Au niveau de l'Avasite où nous sommes, des bureaux et des véhicules ont été sérieusement cassés, les autres partiellement incendiés, mais des unités spécialisées des casques bleus ont fait leur effort, usant même des tirs de gaz lacrymogène pour empêcher les manifestants d'entrer. Au quartier Katindo, on signale aussi certains véhicules de transport en commun, comme des minibus qui ont été caillassés par les manifestants, mis à part quelques cas de blessés. Et donc, malgré l'interdiction du maire de la ville, cet appel des journées ville morte s'est vite mué en des manifestations de colère hostile à la MONUSCO.
Et c'était donc Bernard Nyangui en direct de Goma. À Butembo, pendant ce temps, un cadre du parti politique Bloc Uni pour la Renaissance et l'émergence du Congo Burek et membre de la Ligue des acteurs politiques du Grand Nord qui vous appelle toute la population à l'apaisement. D'après Philemon Matumo, les manifestations des rues ne peuvent jamais donner solution aux problèmes sécuritaires dans l'est du pays, moins encore occasionner le départ de la MONUSCO. Ce cadre du parti cher à Julien Paluku Kaungia appelle tout de même la MONUSCO à corriger ses failles en vue de regagner la confiance de la population. Philemon Matumo est au micro de Sadiki Aboubakar.
Je suis convaincu que tout Congolais et toute Congolaise a droit à manifester en vertu de la constitution de notre pays. Mais entre-temps, la MONUSCO n'est pas notre ennemi. Notre ennemi, c'est celui qui veut que notre province soit miettée. C'est celui-là qui ne veut pas que nos marchandises arrivent à Butembo. Et que donc, ici au Nord Kivu, je crois que les gens se trompent. Les manifestations ne trouveront jamais solution. Et que tout député ou tout acteur politique ambitieux qui pense que c'est de cette manière que la MONUSCO partira, il nous trompe. Et on sait que le départ de la MONUSCO va d'abord du gouvernement. Quand nous aurons la solution, nous l'aurons. Mais il faut un travail. Et le travail va avec celle qui nous représente. Nous avons des députés au Parlement. Nous avons des acteurs dans le gouvernement. Donc, on n'a pas besoin d'être distrait. Butembo, Beni Lubero, nous appelons à l'apaisement. La paix, nous l'aurons. Il est aussi vrai que la MONUSCO a des faillances. La MONUSCO, c'est un partenaire du gouvernement. Elle doit aussi s'affirmer pour redonner confiance à la population.
À Kinshasa, le ministre de la Communication, Patrick Muyaya, a affirmé que le gouvernement suit de près la situation de Goma consécutive à l'appel à manifester contre la MONUSCO. Il condamne fermement toute forme d'attaque contre le personnel et les installations des Nations Unies. Les responsables seront poursuivis et sévèrement sanctionnés, dit Patrick Muyaya, porte-parole du gouvernement. En Ituri, 6 personnes ont été tuées et plusieurs autres portées disparues au cours d'une nouvelle attaque des rebelles des ADF hier dimanche dans le village Kayere en territoire d'Irumu. Selon plusieurs sources, cette incursion a poussé de nouveau le déplacement d'une dizaine de familles dans la région, dont Kiabouye et Bourassi. La société civile locale déplore cependant la non-intervention des forces conjointes FRDC-UPDF pour stopper les exactions de ces terroristes dans cette partie. Des détails avec Ezekiel Mouzalia.
Des hommes armés munis de fusils et armes blanches identifiés aux ADF se sont introduits vers 21h locale à Kayere dans Bayemamitego, proche de la rivière Semliki, en tirant des coups de feu dans toutes les directions. Selon des sources concordantes, les habitants se sont ensuite mis à fuir dans tous les sens. La société civile d'Irumu, qui cite le chef coutumier de Mitego, indique que dans cette confusion, ces rebelles ont incendié 13 maisons d'habitation avant de tuer par balle 6 personnes, dont 2 femmes. 2 autres personnes ont été prises en otage, parmi elles une femme. Cette structure citoyenne déplore du fait que ces terroristes ont opéré avec quiétude sans que les forces conjointes FRDC et UPDF qui se trouvaient non loin du lieu d'attaque n'interviennent. Ce que l'armée n'a pas encore confirmé à ce stade. C'est lundi matin, des dizaines de familles qui ont fui le village Kayere se regroupent vers Bourassi et Kiabouye pour leur sécurité. Des activistes des droits de l'homme dans la région invitent la mutualisation des forces armées congolaises et ougandaises d'orienter leurs opérations contre ces rebelles dans les régions de Boga, Bourassi et Tchabi pour imposer la paix. Bounia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
À Kinshasa, un incendie a ravagé depuis les petites heures du matin le bâtiment abritant le siège de la société commerciale des transports et des ports, l'ex-Onatra, sur le boulevard du 30 juin dans la commune de la Gombe. Le président de l'intersyndicale de la SCTP, indique que l'origine de cet incendie reste à ce stade inconnue, mais les dégâts matériels sont importants. Armand Oussassé évoque la responsabilité de l'actionnaire principal qui est l'État congolais, en ce sens que cette entreprise de transport multimodal n'a même plus de camions anti-incendie. Il a été joint par Radio Capi.
Il y a des dégâts énormes, donc nous sommes vraiment à perte sur le plan, par exemple, des documents. Et donc aussi, c'est une direction stratégique, la trésorerie. Donc, comprenez, ensemble avec moi, que l'entreprise a vraiment perdu beaucoup. Donc là, les enquêtes sont en cours et nous attendons tous la conclusion des enquêtes. Mais il y a aussi une part de responsabilité du gouvernement. Parce que, vous savez, l'État actionnaire unique et une grande entreprise comme la SCTP, qui n'a même pas un camion d'anti-incendie. Tous aussi, la part de l'État, parce que l'État désigne un nombre de mandataires compétents qui aujourd'hui, ils ont rendu très mauvais service, parce que les critères pour l'État de nommer les mandataires, c'est contribuer aux partis politiques et non les critères de compétence. Nous voyons aujourd'hui et ça donne une mauvaise image pour le pays.
Cependant, le feu a été maîtrisé grâce à l'effort des camions anti-incendie de quelques sociétés de l'État et des privés, a dit Armand Oussassé. Un mort et 5 blessés, dont 2 dans un état critique et des étudiants arrêtés. C'est le bilan des échauffourées survenues ce lundi à l'université de Kalemi entre les étudiants et les éléments de la police. D'après des sources à l'UNICAL, la police voulait empêcher les manifestations des étudiants qui protestaient contre l'ingérence du gouvernement dans les affaires académiques. Des sources hospitalières n'ont pas encore confirmé les cas de décès, mais la tension reste encore vive. Le point avec Paul Mounanga.
Vers 8 heures de Kalemi, des étudiants en colère ont barricadé l'avenue industrielle en brûlant des pneus. Ils voulaient dénoncer l'immixtion du gouverneur du Tanganyika dans les affaires académiques. D'après des témoins, la police est intervenue pour disperser les manifestants. Les étudiants ont lancé des projectiles et la police a riposté avec des balles réelles. Des éléments de la police ont poursuivi les manifestants dans l'enclos de l'UNICAL en leur tirant dessus. Le bilan fait état d'un mort et 5 blessés, dont 2 se trouvent dans un état grave d'après plusieurs sources. Cependant, L'administrateur général des cliniques universitaires ne confirme pas encore les cas de décès. Pour sa part, le maire de Kalemie dit avoir déjà interdit les manifestations publiques. Contacté, le commandant de la police ville de Kalemie annonce l'arrestation du policier qui a tiré sur les étudiants. À l'origine de cette situation, deux membres du comité de gestion ont été remplacés parce qu'ils étaient fin mandat. Cependant, le gouverneur a mis sur pied une commission qui s'est rendue à l'UNICAL pour se rendre compte de cette situation. Les représentants du personnel scientifique ont décrété un mouvement de grève à l'UNICAL pour protester contre ce qu'ils qualifient d'ingérence de l'autorité provinciale. Depuis Kalemie, Paulin Munanga, Radio Okapi.
Et dans la Mongala, vive protestation. Hier dimanche, groupement Moéa, secteur d'Ngombedoko, en territoire de Lissala. La population s'est opposée à l'exploitation du bois par la société chinoise Congo King. Elle réclame la signature préalable d'un cahier des charges avec l'entreprise et son strict respect. La cérémonie aura lieu au courant de la semaine au chef-lieu de la province, à Lissala. Des précisions avec Paul-Richard Malengela.
L'évêque de bouclier général ce dimanche au groupement Moya, à 60 km de Lissala, malgré les autorisations administratives qu'elle détient, la société d'exploitation forestière chinoise Congo King n'est pas la bienvenue dans la contrée. La population exige d'abord la signature des clauses sociales avant toute exploitation, une disposition conforme à la loi en vigueur, laquelle stipule notamment la construction des infrastructures sociales, dont des écoles, des hôpitaux et autres, dans la zone d'exploitation. La revendication a eu lieu en présence du ministre provincial de la justice, qui assume l'intérim du gouverneur de province de la Mongala. Celui-ci est parti lancer les travaux d'exploitation par cette entreprise. Vu cependant l'opposition légitime de ses administrés, Georges Engbu Andoulou a plutôt invité les deux parties à remplir préalablement cette exigence légale. Ainsi, les délégués de Moya et de la Congo King vont se retrouver ce mardi à Lissala pour la signature d'un protocole d'accord. Au terme de ce protocole devant les autorités et la société civile, un comité local de gestion sera mis sur pied. Parmi ses missions, la gestion des fonds que l'entreprise va mettre à la disposition des ayants droit ou de la population en général. Bondaka pour Chamalingué, la radio Okapi.
Le trafic a repris entre les territoires de Popokabaka et Kimvula à la frontière des provinces du Kwango et du Congo central. Cela après plus de trois semaines de rupture à la suite de la panne du bac qui assure la traversée. C'est le samedi dernier qu'une équipe de l'office des routes a été dépêchée sur place pour la réparation. Le bac qui s'était heurté à une pierre a finalement été remonté à son lieu habituel. L'information est livrée par le directeur provincial de l'office des routes Kwango, Théophile Mafuta, qui est au micro d'Irène Boma.
Ce bac, c'est un point de passage vraiment capital, car ce bac relie deux provinces, les provinces du Congo central et la province du Kwango, les provinces à vocation agricole. Et que des produits agricoles passent souvent par ces bacs. C'était difficile lorsque les bacs étaient en panne et vous avez senti qu'il y avait des bruits par-ci par-là. Les commerçants qui viennent avec les vivres frais ne font pas Bukangalonzo faire les détours. Non, ils prennent cette route et passent par les bacs. C'est vraiment les raccourcis pour ceux qui connaissent la route. Les bacs, actuellement, je vous dis, est opérationnel. Je vous rassure que le trafic a repris et que ceux qui veulent reprendre cette route, la N16 qui ramène vers Guida, le point de passage du bac n'est plus un problème. Même ceux qui veulent ressortir vers Kabuba, évitant les ponts Kwango et autres, les points de passage du bac n'est plus un problème. Le bac est déjà réparé, le bac a repris son trafic.
Actualité internationale.
À l'approche des élections générales du 24 août prochain en Angola, le président João Lourenço, candidat à sa réélection, a lancé sa campagne électorale lors d'un rassemblement de son parti, le Mouvement populaire pour la libération de l'Angola, MPLA. João Lourenço se présente contre Adalberto de Costa Junior du parti UNITA dans une course qui s'annonce serrée selon les observateurs. Et puis, les exportations de céréales ukrainiennes depuis le port d'Odessa peuvent avoir lieu en conformité avec l'accord signé sous l'égide de l'ONU, malgré les bombardements de la Russie sur les infrastructures portuaires, a estimé ce lundi le Kremlin. Les bombardements visent uniquement l'infrastructure militaire et n'est pas du tout lié à l'infrastructure utilisée pour la mise en œuvre de l'accord sur les exportations de céréales. C'est pourquoi ça ne peut ni ne doit gêner le début du processus de chargement, a estimé le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov.
L'invité.
Le parc national de Kahuzi-Biega a changé de mode de gouvernance depuis avril 2022. C'est ainsi que sa gestion a été confiée à l'organisation World Conservation Society dans le cadre d'un partenariat public-privé. Cet accord de gestion permettra une plus grande mobilisation des ressources, notamment financières, pour le développement de ce parc, selon Deo Kujirakunja, nouveau chef de site du parc de Kahuzi-Biega. Il s'entretient avec Cynthia Bachizina Bizana.
Monsieur le chef de site, bonjour.
Bonjour.
Nouveau partenariat public-privé entre le PNKB et une organisation internationale. Est-ce qu'on peut en savoir un peu plus?
Donc, les partenariats public-privé, c'est un mode de gestion des aires protégées qui est en vogue en Afrique francophone surtout, et où l'établissement public, qui est l'ICSN, l'Institut congolais pour la conservation de la nature pour nous, cède ou délègue sur sa gestion à une organisation quelconque. Et pour les PNKB, c'est la WCS, Wildlife Conservation Society, qui a signé le partenariat avec l'ICSN depuis le 13 avril.
Alors, est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui sera nouveau avec ce partenariat?
Ce qui sera nouveau, d'abord, c'est le travail de collaboration, là où on a les deux entités qui se retrouvent, qui harmonisent les vies pour travailler. Deuxième aspect, c'est cette mobilisation financière, l'amélioration de la performance, mais aussi l'ouverture à des partenariats qui ne pouvaient pas peut-être avoir des partenariats avec l'agence publique de l'État. Et le changement des modes d'opération. Quand je dis mode d'opération, c'est-à-dire il y a des règles qui sont fixées et on doit respecter ces règles. Il y a des besoins qui sont là qui doivent avoir des réponses. Il y a des questions qui sont posées auxquelles on doit absolument apporter des réponses ou des solutions.
Un grand défi au niveau du PNKB, c'est la cohabitation avec les peuples autochtones. Comment est-ce que vous comptez vous y prendre pour solutionner ce problème?
Les approches par rapport à ça vont aller dans la direction de la collaboration, d'un dialogue franc, afin d'identifier quels sont les points difficiles et voir dans quelle mesure on peut les solutionner. Donc c'est basé sur les dialogues, c'est basé sur la confiance et c'est basé sur l'ouverture des différents acteurs.
Par rapport à l'exploitation minière illicite, la société civile vient de vous déposer une note de position pour dire non à l'impunité quant à ces fléaux. Qu'est-ce que vous répondez?
Donc c'est toute une gamme pour arriver à répondre à cette question minière au niveau du Kahuzi-Biega. Non seulement l'application de la loi, mais aussi l'implication des différents services de régulation, de régulation minière au niveau de la RDC. Il faut prendre le contexte d'exploitation des ressources naturelles dans l'ensemble. Ce n'est pas seulement un seul acteur qui intervient dedans, mais ce sont les différents acteurs et différents groupes. Donc ce n'est pas seulement les personnes non autrement identifiées, mais ce sont des groupes existants qui vivent, soit en dehors, qui proviennent d'ailleurs. La réponse facile pour nous comme parc, nous fournissons les efforts avec nos éco-gardes qui patrouillent nuit et jour pour arrêter les gens qui exploitent illégalement. Et après ça, nous allons à la deuxième étape, là où nous les déposons au niveau de la justice, parce que c'est eux qui doivent faire ce travail d'application de la loi. Et nous avons une cellule juridique qui fait les suivis réguliers.
Quelles sont vos perspectives en termes de croissance, en termes de développement?
Mais par rapport aux perspectives, comme je l'ai dit tantôt, c'est arriver à améliorer les services qui existent, parce qu'on ne parle pas de zéro. Il y a le tourisme qui est là, il y a les touristes qui continuent à arriver, et pour lesquels on va continuer à améliorer les conditions afin d'attirer plus de touristes. Et surtout, le message qu'on lance, c'est aux jeunes, c'est aux Congolais, de venir visiter leur parc, leur bien. Les étudiants, ils ont commencé. On est arrivé à environ 300 étudiants qui ont visité le Kahuzi-Biega le mois passé. Pourquoi? Parce que c'est aussi un laboratoire scientifique. Tu veux étudier les gorilles, ce n'est pas dans les eaux, c'est ici qu'il faut les faire. Tu veux étudier les plantes, c'est ici que tu vas les faire. Tu veux étudier l'interaction homme-animal, c'est ici qu'il va les faire. Donc, il y a toute cette opportunité qui représente les Kahuzi qu'on va vouloir exploiter et exposer aux différents acteurs.
En termes de chiffres de visiteurs, de touristes, on en est à combien par an?
Comme on n'a pas encore fait l'année, donc je ne sais pas te donner les statistiques annuelles.
Mais l'année passée,
il y avait l'impact du Covid qui a en fait frappé le tourisme. Là, on est parti, je crois, de 300 l'année avant le Covid à environ une centaine pendant toute l'année. Et là, on comprend, mais on est en train de voir que c'est en train de se relever. C'est question seulement d'assurer qu'il y a cette conjonction d'efforts, parce que le tourisme ne peut pas évoluer si les systèmes hôteliers ne s'améliorent. Il ne peut pas fonctionner si les infrastructures ne s'améliorent. Il ne peut pas fonctionner si on continue à faire la guerre au Kahuzi-Biega au lieu de les protéger.
Je vous remercie.
Merci beaucoup.